Ça va. Bon, alors, atelier. Bon, vous savez que quand on a dit qu'on allait parler de ça, je me suis un peu étonné. J'étais voir ce qui se passait sur mes informations et j'ai trouvé que d'arriver à trouver quelque chose de cohérent sur le problème, c'était loin d'être évident, parce que ce sujet-là n'est malheureusement pas uniquement scientifique, mais il est beaucoup politique. Donc on a du mal à savoir exactement de quoi on parle. Et moi, je me suis demandé pourquoi on parle de transition aujourd'hui, alors qu'il y a toujours une transition énergétique depuis que le monde existe. Hein. Alors, évidemment, l'énergie, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est quelque chose, c'est une grandeur physique. Ça veut dire que c'est des choses qui nous sont indispensables, parce que l'homme a besoin de se chauffer, il a besoin de voir clair, il a besoin de force mécanique. Et ça, c'est une différence par rapport à l'animal qui arrive à se démerder tout seul tout au long de sa carrière. Nous, c'est un peu plus difficile. Il faut ajouter des choses que nous n'avons pas. Disons, on n'a pas de fourrure, on ne sait pas chasser, on a des tas de soucis qui font qu'il nous faut de cette fameuse énergie dont on parle. Donc depuis le début de l'ère humaine, ben, y a des gens qui ont cherché à ajouter de l'énergie pour vivre un peu mieux. Donc moi je dis qu'à partir de ce moment-là, il y a eu transition. Depuis l'homme des cavernes jusqu'à maintenant, on est en transition permanente. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir de l'énergie ? Il faut qu'il y ait des ressources, qu'elles soient accessibles, on va en parler, prévisibles si possible, que ça soit pas trop cher, que ça soit facile à utiliser. Et puis maintenant, et à l'époque on s'en foutait complètement au début, hein, c'est qu'on savait pas s'il allait avoir des effets secondaires nocifs. L'oxyde de carbone, on savait pas ce que c'était, le gaz carbonique non plus, les oxydes d'azote, j'ai même mieux pas en parler, on savait pas que ça existait. Et les déchets, ben, on les mettait n'importe où, donc on n'avait aucun souci. Donc ça, c'est des soucis qui sont venus après. Alors, l'énergie, vous la connaissez généralement sous la façon dont vous l'achetez aujourd'hui. Alors, il faut être d'accord là-dessus. Tout ce que je raconte là, l'essence, le gazole, le mètre cube de gaz, le kilowattheure d'électricité, le kilo de gaz butane ou propane, la tonne de charbon, c'est de l'énergie. C'est des choses destinées à nous fournir l'énergie dont on a besoin. Vous avez remarqué que la plupart de ce que j'ai écrit ici... Hein ? Je ne l'ai pas mis là, le bois. Parce que... Attends, c'est parce qu'aujourd'hui, on prétend que c'est une chose de renouvelable. J'ai quelques doutes sur le sujet, hein, personnellement. Parce que le bois, j'ai quand même plutôt entendu parler de déforestation qu'autre chose. Moi, mettre ça dans l'énergie, disons que là, je suis plutôt dans l'énergie plus traditionnelle, et puis il y a des problèmes, on en reparlera du bois. Mais donc ça, c'est des choses qui, a priori, sont destinées à faire de la chaleur. Sauf l'électricité, qui a des qualités bien supérieures à tout le reste. Alors, le problème, ça commence à se compliquer quand on parle d'unité. Hein. Alors ça, vous savez tous, mais on va se faire une petite... juste une révision rapide. C'est que quand on était petit, quand on nous parlait de chaleur, on nous parlait de calories. Alors vous vous rappelez vaguement ce que c'est que la calorie. J'augmente un gramme d'eau, un degré, ça fait une calorie. Alors quand on vous parlait de calories, vous saviez qu'on parlait de chaleur. Quand on vous parlait d'électricité, on vous parlait de watts, de water. C'est des choses qui vous paraissaient claires. Le mot joule, on ne l'utilisait pas vraiment beaucoup. Hein. Bon, alors, il y a un jour, quelqu'un qui a dit, il s'appelait Joule d'ailleurs, il a fait une correspondance entre la calorie et le joule. C'est-à-dire que en faisant une correspondance sans chauffer, on va dire, de l'eau, ou en la sans chauffer, en mettant de l'énergie mécanique dedans, bon, je ne veux pas reparler ici de l'expérience de Joule, on a dit que finalement, l'unité de base, c'est le joule, et que la calorie dont on parlait, on va essayer de plus en parler, on va dire que c'est 4,18 joules. Ce qui fait que quand on parle maintenant de joules, on ne sait pas si c'est de la chaleur ou si c'est du travail. Alors ça, ça commence, ça peut aider les gens à faire des confusions. On va essayer d'oublier les confusions. Hein. Alors, c'est pour ça qu'on est arrivé à cette unité unique, le joule, pour travail ou chaleur. Alors le problème, c'est que d'un côté, le travail, c'est mécanique, on voit ce que c'est. La chaleur, c'est uniquement de la chaleur. Alors évidemment, si je veux dissiper le travail en chaleur, bah, par exemple, avec du frottement, je fais frotter un arbre, ça consomme l'énergie mécanique, ça me fait de la chaleur, c'est le même nombre de watts d'un côté, le même nombre de joules d'un côté que de l'autre. Bon, ça c'est relativement immédiat à comprendre. Mais si je veux transformer la chaleur en travail, c'est-à-dire pouvoir à partir d'une source de chaleur, ce qui est le plus fréquent, faire de l'effort mécanique, c'est plus compliqué. Et on a mis beaucoup de temps avant d'y arriver. Il a fallu arriver au XVIIIe siècle pour commencer à raisonner sur la thermodynamique. Et c'est le bon vieux Carnot là, qui est au travail, qui vous fait la correspondance par un système thermodynamique. Et le premier dont on a vu l'utilisation de ça, c'était la machine à vapeur. Alors on va dire que tout a commencé sérieusement en matière d'énergie au moment où la vapeur est arrivée. La vapeur a permis de faire de l'énergie mécanique à partir de la chaleur. Et puis, après, on est arrivé à une autre étape où cette énergie a donc été manipulée sous forme d'électricité. Mais là, c'est là que ça devient compliqué. Alors, pour faire de la chaleur, la transformer en travail, donc il a fallu utiliser les cycles thermodynamiques où Carnot apparaît. Alors, la machine à vapeur, c'est le plus simple à comprendre. Vous chauffez de l'eau, ça fait de la vapeur, il y a de la pression, vous mettez ça dans un piston et vous obtenez une force mécanique. Et ça a commencé vraiment vers les années 1800, sérieusement, 1820, 1830. Et c'est là que l'industrie a commencé vraiment à travailler parce que on pouvait, où on voulait, quand on voulait, faire de l'industrie, des forces mécaniques qui était tout à fait une nouveauté par rapport à l'époque précédente où les forces additionnelles provenaient surtout de l'homme, de l'eau, du vent, mais dans des conditions où, quand elles voulaient, c'était au fil de l'eau, au fil du vent, là où était l'eau, quand le vent voulait bien, et en quantité relativement très faible. Alors, je rappelle la machine à vapeur. Baudrochat, c'est le cycle du moteur à essence, le cycle à explosion, le diesel. Puis après, on est arrivé vers la turbine à gaz. Puis il y a même des trucs rigolos qui n'ont jamais fait beaucoup de puissance, mais qui sont des rendements formidables, le Stirling. Voilà, tout ça, c'est des cycles thermodynamiques qui permettent de transformer de la chaleur en travail avec des rendements qui varient entre 25 et 50%. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas transformé en travail, c'est transformé en chaleur, perdu quelque part dans l'espace. Ça peut être de l'eau, dans l'eau, ça peut être dans l'air, etc. Bon, on va vite passer là-dessus pour se rappeler. Ah, il y a quand même une solution qui va redevenir au travail, c'est que si je veux transformer du travail en chaleur, vous avez vu, la première solution qui est horrible, c'est que, mettons que ce travail, ça soit de l'énergie électrique, je mets une résistance, mes kilowatts ou mes joules d'électricité se transforment en joules de chaleur, point. Et cette chaleur est donc une énergie dégradée par rapport à l'énergie de travail qui lui a donné naissance, puisque avec de la chaleur, on ne peut plus refaire du travail simplement, sauf, on peut peut-être, avec du travail, faire de la chaleur d'une meilleure façon en utilisant la pompe à chaleur. Qui devient de plus en plus à la mode, hein, pour beaucoup de choses. Alors la pompe à chaleur, c'est le cycle thermodynamique du frigo, mais à l'envers. Hein. Donc quand vous faites tourner la machine au milieu, ça crée une différence de température entre la source froide et la source chaude. Après, à partir de là, vous pouvez capter de la chaleur à l'extérieur d'un bâtiment, dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Cette énergie monte en température, c'est-à-dire qu'on la mène à un niveau de température plus haut, et après ça peut être utilisé pour dissiper cette nouvelle chaleur dans un appartement par exemple. C'est le contraire du frigo. ou au contraire, on cherche à faire du froid en dissipant la chaleur à l'extérieur. Bon, alors ça, le principe de la pompe à chaleur, c'est très important parce que c'est quand même très utile et ça permet donc de, avec une quantité de travail donnée, de fournir de la chaleur en plus grande quantité, sauf que cette chaleur, en fait, elle vient pas d'électricité. Elle vient de l'air ambiant ou de l'eau ambiante ou de la terre ambiante dans laquelle on a piqué l'énergie à un niveau de température bas. Et le système a simplement servi à changer le niveau d'énergie en degré de la, on va dire, l'entropie de cette chaleur. Bon, on posera des questions après si vous oubliez ça. Alors, les sources successives qu'on a eues, je rappelle, bon, ouais, au début, la seule chose, l'homme de caverne, il a trouvé déjà le moyen de faire du feu avec du bois. Ça n'a pas été tout de suite, hein, savoir allumer du bois, c'était pas tout à fait évident. Et puis après, c'est lui qui formait la force motrice dont il avait besoin, donc il fallait qu'il mange pour faire de la force motrice. Puis un homme, c'est pas très costaud. Hein, on va parler d'unité, mais la force moyenne que peut développer un homme, c'est de l'ordre... Hein? Raté, 100 watts, 100 watts. Alors, bon, Armstrong, bourré de PO, 400 watts pendant une heure maximum. Bon, point. Alors vous n'êtes pas à ce niveau-là, hein? Oui, tout de suite. Hein? Alors, par contre, les animaux, c'est quand même plus costaud. À tel point que, pour parler de la force des animaux, de la puissance des animaux, le cheval est venu servir un peu d'unité. Alors, c'est notre ami Watt qui a bossé cette question, qui était très curieux de connaître les unités qu'on pouvait utiliser. Alors, ce qui l'a impressionné, c'est de regarder un cheval qui tirait une corde avec laquelle il faisait monter des fûts de bière dans la cave, dans une cave anglaise, dans une brasserie anglaise, et il a à peu près, alors lui, il causait pas en mètres, il causait dans ses unités à lui, et il a à peu près défini quelque chose que maintenant, on définit, nous, en 736 watts. Voilà. Mais alors, j'ai pourtant vous dire que les chevaux en question, il y avait autant de chevaux différents que de pays. Il y avait le chevau anglais, il y avait le chevau français, il y avait le cheval vapeur de l'un et de l'autre. Et tous ces
chevaux. Parce que c'était les gros
fûts. Ils n'avaient pas les mêmes fûts. Enfin, cette unité avait loin d'être une unité de précision, mais ça donnait une idée. Alors ensuite, il y en a même qui ont défini des unités à partir de l'âne. Hein. J'ai lu qu'il y avait une unité à partir de l'âne, parce que l'âne était peut-être aussi fréquent que le cheval. Bref. Après, il y a eu le problème d'utiliser le vent et l'eau. Alors ça, c'est venu assez vite, parce que, encore que avant de découvrir le vent pour faire naviguer les bateaux, on a trouvé que les galériens, c'était pas mal. On a donc utilisé des galériens très longtemps. Il y a eu des tas de galères avec des tas de rames, des tas de gars. Mais alors, c'était quand même encombrant. Il fallait quand même les nourrir. Donc tous ces chevaux, ces watts-là, si on peut dire, étaient relatifs, hein, étaient quand même difficiles. Et après, on a mis le vent au pouvoir avec des voiles plus ou moins sophistiquées, mais ça a quand même servi longtemps. Le seul inconvénient, c'est que, mais c'est pas grave pour le bateau, s'il n'y a pas de vent, il s'arrête. Il ne tombe pas. Mais donc, la navigation à voile, c'est une navigation qui était quand même un peu aléatoire, si on voulait tenir un délai. Alors, le vent et l'eau pour entraîner des pompes et des moulins, ben on a tous connu ça, parce que il faut quand même voir que le moindre des moulins à vent mal foutu, complètement nul, il faisait l'équivalent de 50 chevaux. Et il ne bouffait pas d'avoine. Et il moulait. Il servait pour pomper l'eau dans les polders hollandais. Il servait à moudre le grain et la pierre ailleurs. Donc c'était quand même extraordinaire de disposer d'une force équivalent à 50 chevaux, et tout ceci avec des utilisations qui, ma foi, si elles s'arrêtaient, elles pouvaient reprendre le lendemain, c'était pas grave. C'était donc l'énergie utilisable au fil du vent. Et puis c'est pareil pour l'eau. Alors, vous avez tous vu que les premières fonderies, les premières usines métallurgiques se sont construites à côté de rivières, hein, parce que c'était le seul moyen d'avoir de l'énergie mécanique assez facile, et toutes les petites forges que vous avez pu trouver le long des rivières étaient faites parce que là, on avait trouvé de l'eau, on avait trouvé du bois pour faire fonctionner, et puis du fer, souvent pas très loin, qui a permis de faire le début de l'industrie métallurgique. Mais tout ça, c'était des petites quantités. Alors les moulins, c'est pareil, vous trouviez, je vois encore une rivière là, dans le Luberon, où il y a 10 moulins à huile le long de la rivière. À chaque fois, tous les 100 mètres, il y a un gars qui a prélevé un peu d'énergie pour faire ça. Moi, j'avais un oncle, en 1945, hein. Il était sabotier à Nolay, et il faisait ses sabots dans une usine à Sampigny, le long de la Causanne, et il utilisait l'eau de la Causanne quand il y en avait, pour faire tourner ses machines. Il n'avait rien d'autre. Il n'y avait pas d'électricité disponible là-bas à l'époque. Hein? Donc c'était une... Évidemment, les sabots, s'il arrêtait de les fabriquer, après il les finissait à la main en attendant que le bief se remplisse à nouveau, quoi. Et il pouvait tourner une heure, deux heures, trois heures. Ben, ça a été l'histoire du monde jusqu'au début du XXe siècle. Hein? Voilà. Et puis alors, la vapeur arrive, alors là, c'est extraordinaire. On parle de puissance. Alors, évidemment, la première locomotive, elle devait faire 50 chevaux, la Gironde, quelque chose comme ça. C'était le début. On disait que c'était énorme. Par contre, elle démarrait quand on voulait. Elle n'attendait pas le banc, elle n'attendait pas le vent, elle n'attendait pas l'eau. Et on mettait du charbon et ça baignait. Donc c'était vraiment... On peut dire que... Alors, si on peut parler qu'il y a eu une transition énergétique, c'est vraiment... au début des années 1830, quand la vapeur est arrivée, qui a multiplié par 100 et plus la quantité d'énergie qui devenait disponible au monde. Si on veut parler de transition, c'est là qu'elle commence. Hein. Alors là, j'ai piqué ça à Multon, c'est un gars de l'Est Cachan, c'est un peu un écolo. Hein. Je ne vous montrerai pas tout ce qu'il a raconté, parce que c'est un peu douteux. Hein. Mais il a fait deux, trois trucs. Vous ne lui direz pas que j'ai piqué, je n'ai pas dit, je n'ai pas vu. Alors, c'est juste pour nous rappeler des choses. Alors, ça, c'est le truc qui intéresse vachement les écolos, ça, parce qu'on s'aperçoit... Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus ? Le soleil, c'est le générateur absolu. Le générateur... Il nous envoie un rayonnement 12 000 fois l'ensemble de l'énergie consommée sur Terre. Et ça, c'est compté par an, hein, qu'on parle de des consommations annuelles. Alors, vous n'allez pas me dire que si le Soleil en envoie 12 000 de toutes les galeries, vous n'allez pas pouvoir en prendre un poil de cul pour vous servir et ne plus utiliser autre chose. Et ça, c'est le grand laïus écolo, il est là. Bon. Vous êtes trop con pour ne pas pouvoir utiliser ça. Alors, quand il regarde de plus près, on s'aperçoit quand même que l'énergie qui est envoyée, beaucoup est réexpédiée par les couches atmosphériques. D'abord, il y a une réémission directe au niveau de la couche d'ozone, là, il y a une réémission directe, et puis vous avez la partie qui a chauffé la Terre, et il y en a 45% qui sont réémises plutôt dans le niveau infrarouge, et c'est là que ça devient embêtant d'avoir du CO2 dans l'atmosphère, parce que ça freine la réémission de cette énorme quantité d'énergie qui repart vers l'univers. Et c'est quand même pas mal foutu le truc, parce qu'on arrive à maintenir chez nous des températures extraordinaires, autour de 20 à 30 degrés, juste au-dessus de la température de l'eau. C'est quand même extraordinaire. Le créateur nous a fait un truc là qui marche pas mal. Hein. L'eau étant quand même un produit le plus évident, l'hydrogène et l'oxygène, on a créé une atmosphère qui est vivable autour de, entre, on va dire, entre 10 et 40 degrés. Il ne faudrait pas que ça monte beaucoup plus haut, parce que là, ça commençait à devenir difficile pour vivre avec l'eau. Donc, si on commence à déranger cet équilibre, on peut se douter que ça, on va avoir des ennuis. Alors, personne ne sait exactement qu'est-ce qui perturbe le plus, est-ce que c'est le CO2, mais il n'y a peut-être pas que ça, puisqu'il y a eu des époques glaciaires, il y a eu des époques différentes dans l'histoire de la Terre, il y a d'autres phénomènes qui jouent, mais celui-là a l'air quand même d'être un peu efficace. Et depuis 2 siècles qu'on s'est mis à brûler du charbon et autres trucs pour nos besoins énergétiques, apparemment, on a commencé à bouger un peu l'équilibre général de la température sur Terre. Moi, on peut peut-être admettre ça comme raisonnement, pas plus pour l'instant. Bon, à part ça, cette énergie solaire, c'est elle qui fabrique les mouvements de l'eau, c'est elle qui fabrique les mouvements du vent, les mouvements de la houle, des marées, tout ça, et c'est ça qu'on considère aujourd'hui comme des énergies renouvelables extraordinaires, c'est-à-dire le vent, et puis évidemment directement l'énergie du soleil. Et la photosynthèse, c'est quand même pas mal, hein. La photosynthèse, ça bouffe de l'énergie, hein. Et alors c'est là qu'on commence à dire, est-ce que le bois est totalement renouvelable en fonction de la façon dont on s'en sert et tout. Allez, c'est pas le sujet du jour, ça pourrait durer plus longtemps. Mais disons qu'il y a un problème, parce que quand on utilise du bois, il faut quand même savoir qu'on l'utilise avec un rendement dégueulasse. Hein? Quand on brûle, dans une cheminée vous brûlez du bois, d'abord vous dégagez des saletés épouvantables. Vous savez que dans le bois il y a 10% de carbone, et le reste c'est ce qu'on appelait des jus pyroligneux, des produits avec des formules longues comme un jour sans fin, et avec des produits assez dégueulasses, que s'ils ne sont pas brûlés complètement, sont quand même relativement dangereux. Hein, les gars qui font du barbecue sur des bois qui ne sont pas réduits à l'état de cendre, à mon avis, ils prennent des risques assez importants. Hein. Donc tout ça, ce n'est pas d'une netteté absolue. Hein. Mais en gros, ça nous aide à nous rappeler comment l'énergie nous arrive sur Terre. Alors, là, j'ai pris aussi le truc de... J'en parlais, le truc de Multon, parce qu'il est bien dessiné, son tableau. En gros, il faut prendre l'habitude, dans tout ce que vous entendrez concernant la transition énergétique, sur le fait qu'on va parler de ressources primaires, d'énergie primaire, on va parler d'énergie finale, et puis les services énergétiques, c'est-à-dire à quoi ça sert. Alors, ce qu'on a convenu d'appeler ressources primaires, c'est tout ce qui est disponible et qu'on n'a pas encore utilisé. C'est-à-dire, si c'est des trucs qui sont dans les mines, il faut aller le chercher dans les mines, il faut l'extraire, il faut le nettoyer, il faut le purifier. Enfin, il y a tout un lot de travail à faire pour que ces ressources primaires deviennent une énergie finale, c'est-à-dire une énergie qui est, on va dire, servie à votre porte, prête à être utilisée. Alors, c'est le cas typique. Bah, des combustibles, hein, vous êtes l'énergie qui vous est amenée aujourd'hui à la pompe de votre de la station-service, c'est une énergie finale. Alors, il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est une façon de noter les choses, et puis vous allez entendre parler tout le temps d'énergie primaire et d'énergie finale quand on parlera des bilans énergétiques. Alors, c'est pareil pour le gaz livré au compteur, le compteur électrique, c'est pareil. Et puis l'électricité, la chaleur des réseaux de chaleur distribuée, ça c'est beaucoup plus rare. Il y a dans certaines villes qu'on a des réseaux de distribution de chaleur, ce qui entre nous c'est pas un succès formidable, parce que les pertes en ligne de ces trucs-là c'est quelque chose d'effarant. Hein. Et puis, alors là, les renouvelables, ça c'est le truc dont il faut parler avec précaution pour pas se faire tuer et bouffer par le premier écolo venu. Hein. Alors, bon. Le rayonnement solaire, les sous-produits, l'hydro, le vent, la houle, la biomasse, on est d'accord. La chaleur géothermique, ouais, c'est pas tous les jours que vous allez rencontrer de la chaleur géothermique, il faut être dans un coin où il y a vraiment ces sources géothermiques. Ça peut arriver, mais c'est pas un truc qui est réparti sur la Terre, et ça se balade pas non plus. Hein. Et puis, interaction gravitationnelle, c'est-à-dire les mouvements des marées, qui peut, l'énergie marémotrice, on en parle depuis longtemps. On en a même fait une à la Rance, au Creusot, qu'elle est bien connue, parce que les turbines ont été faites au Creusot. Et puis, il fallait de la bonne acier. Le Virgo 39, pour qu'il soit à peu près inoxydable pour ça. Mais depuis, il y a quand même beaucoup de problèmes avec la Rance, parce que les bateaux, par exemple, quand ils se remplissent de coques, de toute saleté, on les sort de temps en temps pour les nettoyer. Les turbines de la Rance, c'est un peu plus difficile. Et plus ces envasements qui se produisent, c'est pas simple du tout. Donc on n'a pas vraiment recommencé l'expérience. Voilà. Alors, on va arriver à un point, j'en parlerai après, là. Voilà. Alors, je remets ça en plus simple, Donc, on a les réserves fossiles, c'est classique, le pétrole, le charbon, le gaz, on va chercher ça, on sait où, et l'uranium. Alors, l'uranium, quand on dit ça, on est déjà suspect. Il faudrait pas en parler. C'est dangereux. Et puis, il y en a très peu, pareil. On n'y arrivera pas. Si jamais tout le monde veut de l'uranium, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, évidemment... J'en connais un là qui va me dire que je suis à côté de la plaque. Oui, il se retourne, mais c'est lui que je vise. Ouais, parce que tout ce qui se raconte là-dessus, c'est qu'on oublie quand même les surgénérateurs, quoi. C'est relativement embêtant de les oublier parce qu'il y a un coefficient 50 au moins à mettre là. Bon, les rayonnements solaires responsables de l'équilibre général climatique de la planète, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le rayonnement solaire à travers les couches diverses. Eh bien, on a un équilibre climatique qui est relativement bon. Il y a des pays qui sont un peu trop chauds, des pays un peu trop froids, mais nous, on a la chance de vivre dans la partie la plus tempérée des climats de la planète, on en profite. Alors, la gestion de l'eau, bah oui. Le problème de l'eau, vous savez que on évapore de l'eau et on la recondense, ça fait des pluies. Il y a un problème grave, c'est que on ne sait pas où elle va tomber, ça dépend du vent. Et elle ne tombe jamais à l'endroit où on en voudrait tout à fait, quoi. Il y a des gens qui n'en ont pas beaucoup et d'autres qui en ont trop et ça change d'une année sur l'autre. Mais ça fabrique quand même de l'eau. Et l'eau, c'est quand même aujourd'hui la seule énergie renouvelable extraordinaire qui existe. Le reste, c'est relativement du pipeau, on va en parler. Gestion du vent, c'est pareil. Le vent, c'est un problème énorme. Ça va quand ça vient, ça part, on ne sait pas pourquoi, ça revient, on ne sait pas pourquoi, et ça revient trois fois plus fort qu'on voudrait, on ne sait pas pourquoi, et on ne peut pas contrôler le vent. Alors, on peut utiliser du vent avec des éoliennes, il n'y a qu'un problème qui est embêtant, c'est que la puissance du vent, dans une éolienne par exemple, ça marche avec le cube de sa vitesse. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme ça va vite. Quand vous avez le vent qui passe de 2 à 4 mètres secondes, vous avez quand même l'énergie qui passe de 1 à 8. Donc les éoliennes, c'est des véritables machines dangereuses qui sont plus dures à contrôler qu'un pur sang. Parce que on peut avoir des variations de vent de 5 mètres secondes en 10 secondes. Et dans ce cas-là, il faut mettre les freins. Autrement, l'éolienne, elle s'envole. C'est pour ça que c'est des engins incontrôlables, on va dire. On peut leur éviter de se casser, mais ce n'est pas elles qui vont décider, c'est pas vous qui avez décidé si elles vont fournir l'énergie dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. C'est totalement aléatoire. Alors l'eau, c'est vachement mieux. On n'a jamais vu une rivière s'arrêter de couler brutalement. Jamais. La mer, c'est pas. Même si on veut la puissance de la houle, on n'a jamais vu une houle s'arrêter en une heure, ça dure plusieurs jours, c'est des énergies cool. Le contraire exactement du vent. Puis alors on parle aussi du photovoltaïque. Alors le photovoltaïque, c'est super, mais là au moins on est sûr d'une chose, c'est que la moitié du temps, il n'y en a pas. Ça, c'est mathématique. Puis quand c'est l'hiver, c'est deux tiers du temps qu'il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle vraiment des énergies intermittentes. Alors, donc, la puissance... Alors, quand on parle de puissance, c'est donc une donnée aussi importante que le travail. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de puissance, et puis d'autres moments on peut utiliser la puissance à son goût, et puis on a des notions de puissance moyenne et maxi, parce que dans toute utilisation, on peut avoir besoin d'un coup de... un coup de force, et puis quand on dit un cheval, on lui donne un coup de fouet pour le faire pousser un coup, c'est, oui, il le fait, ça dure pas longtemps. Hein. Alors l'unité, comme on disait tout à l'heure, il était basé sur le cheval, et on n'a pas les mêmes chevaux, il y avait le cheval vapeur anglais, le cheval vapeur américain, le cheval vapeur français. Alors, ça bougeait pas beaucoup, hein. Il y en a qui étaient à 730 watts, l'autre à 750 watts, c'est pas des écarts énormes. Mais c'est comme dans le temps, quand on n'avait pas inventé le mètre, ben, il y avait des pieds, et les pieds, il y en avait autant que de pays. Ça dépendait de la longueur du pied du gars qui avait été choisi un jour pour faire les talons. Mais c'est pas une blague, hein. Quand les gars, j'ai vu une étude sur Cluny 3, et ils n'avaient pas retrouvé leur petit, il y en a qui a dit, ouais, ben à cette époque-là, c'est pas le pied romain qu'on utilisait, c'était le pied bourguignon, et c'est pour ça qu'on s'y retrouve pas. C'est pas une blague. Alors, bon, un homme, un quart de cheval. Alors, un homme, un quart de cheval, ben, il faut qu'il pousse, hein, un quart de cheval, c'est-à-dire presque 200 watts, hein, ben, ça dure pas longtemps, hein. Bon, il y a le cas d'Armstrong, on a mesuré 400 watts, mais l'homme, c'est... Allez, un homme, c'est 100 watts pendant...
123 minutes.
Pourquoi, 3 minutes?
Parce qu'au bout de 3 minutes, tu ne tiens pas 120.
Tu ne tiens pas 120? Moi, je crois que si, quand même.
Tu as fait des tests d'effort pour le cœur?
Non. Oui. C'est dangereux. Moi, j'en connais, ils ont été faire des tests d'effort, ils sont partis en 5 planches. Hein. Alors, vous garderez vos tests d'effort comme vous... 120 watts. Ouais, bah tu vois.
Après, tu peux pas tenir.
Bon ben, Armstrong est vachement meilleur. Hein.
Ouais.
Ok, on continue. Alors là, attendez, là, on va rentrer dans les chiffres et je vous prie de ramener vos neurones en état de marche. Hein. Alors, la puissance, 1 watt, c'est 1 joule par seconde. Le watt-heure, c'est 1 watt pendant 1 heure, c'est devenu une énergie de travail, non pas de puissance. 3600 joules. Kilowattheure, 3,6 mégajoules. Bon, allez, c'est simple, ça. Hein, 10 puissance 3, 10 puissance 6, vous vous rappelez un peu. Et puis alors, ensuite, pour parler dans des chiffres importants dont on va parler, on a pris d'autres des habitudes. C'est par exemple de parler d'une TEP. C'est donc une tonne équivalent pétrole. C'est devenu une habitude. Ben, il n'y a pas de raison de la changer. Et on dit qu'une tonne équivalent pétrole, une TEP, ça vaut 11 628 kWh. Alors ça, ça correspond à la capacité calorifique d'un kilo de fuel. Hein. Ça a été choisi comme unité définitive. Bon, ben, c'est tout, maintenant, c'est choisi. Bon, à peu près, une TEP, c'est à peu près 1000 m3 de gaz naturel. Et puis, si on s'amuse à faire l'inverse, on dit qu'un mégawattheure, c'est 86 millièmes de TEP. Voilà. Alors, c'est une façon de se rappeler que ces unités, vous allez en entendre parler quand on va regarder les bilans globaux. Hein. Alors, l'énergie primaire, je reviens dessus, c'est ce qui sort, ce qu'on sort de la mine ou du forage. C'est généralement calorifique, donc c'est quelque chose destiné à faire du feu, de la chaleur, hein. C'est donc ce qu'on a dit, le pétrole, le gaz, le charbon. J'ai même mis le bois, hein, ce coup-là. Je l'ai rajouté, là. Hein. Ouais. Et puis, l'uranium. Parce que l'uranium, c'est jamais une centrale... Il n'y a pas de différence entre une centrale à charbon et une centrale uranium. Ça fait de la chaleur dans tous les cas. Et cette chaleur est destinée à être transformée en travail. Donc, on parle de TEP, et on parle même de méga-TEP, parce que les quantités grossissent. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est noté. Ah, alors là, c'est juste pour rappeler un chiffre qui est à peu près connu, c'est la consommation mondiale, la production mondiale d'énergie primaire, en gros, 12 000 mégatep. Voilà. Alors c'est la quantité d'énergie primaire produite à peu près par an sur la planète. Ce chiffre, il évolue pas beaucoup, hein, c'est à peu près constant. Alors, il y en a qui viennent du pétrole, du charbon, les plus importants, du gaz, et du nucléaire et l'hydraulique. Alors, l'hydraulique, c'est les barrages hydrauliques que vous connaissez. En France, on est bien servi, hein, on est... parce qu'on a quand même eu une chance en France, hein, c'est que l'ENA n'a pas été inventée trop tôt. Et les gens qui étaient au pouvoir dans les années 45 étaient loin d'être des cons. Et ils ont pensé un peu plus loin que le bout de le nez qu'un énarque actuel. Et ils ont décidé que l'énergie électrique allait se développer et qu'il fallait la produire dans les meilleures conditions possibles, le moins cher possible et tout. Et c'était peut-être intéressant de développer, d'utiliser l'eau, c'est-à-dire on a équipé les barrages en France. On a équipé les... Mais c'était un travail, mais c'était pas une décision qu'on changeait au bout de 3 mois, après un vote de l'Assemblée. Hein. C'est une décision continue qui a duré 40 ans. Et ça a permis d'avoir en France un parc hydraulique que... Aujourd'hui, on ne ferait plus. Hein. Ce n'est pas la peine de discuter, on ne ferait plus.
Mais le Rhône, on voulait le rendre navigable aussi.
Comment ?
Le Rhône, c'était pour le rendre
navigable. Mais les deux, mon capitaine, les gens, ils avaient des idées globales. Moi, on est nous au bord du Lot, ben, le Lot a été régulé avec ça, parce qu'il fallait le réguler, mais on en profitait pour faire l'électricité. Donc des gens avaient des stratégies qui étaient pas, peut-être pas aussi longues que les pharaons qui ils savaient qu'il fallait plus d'un siècle pour se faire une pyramide, mais c'était pas loin, ou que les cathédrales, c'était les nouveaux constructeurs de cathédrales. Comment ?
On a nationalisé ce qui existait, hein,
ouais. En 1945. En plus.
Il y en avait un paquet.
Hein. Il y en avait un paquet, parce que c'était commencé avant. Hein. Avant-guerre, on avait commencé à équiper, en particulier les Pyrénées, qui ont beaucoup servi au départ pour créer l'électrification des lignes de chemin de fer du sud-ouest.
Hein. L'énergie aussi.
Comment ? Et pour les usines aussi.
L'alu.
Je vois à quoi tu penses. Je vois à quoi tu penses. Et oui, donc, il y avait...
Il y avait un paquet, là.
Ah, hein. Ben oui. Alors, il y a eu tout... Donc, les Alpes et les Pyrénées ont été les premiers... Alors, au début, c'était des hautes chutes, quoi, des réserves d'eau dans des lacs qu'on utilisait. Et puis après, on a fait les grands équipements du Rhône. Et puis, entre-temps, il y avait les moins peu de grands équipements, les Génicia, des trucs comme Seyssel, les premiers barrages du Haut-Rhône, qui commençaient à avoir des puissances non négligeables. Hein. Alors évidemment, on a un inconvénient, nous, même en France, on n'a pas l'équivalent du Paraná au Brésil, hein, où toutes les fois qu'on les turbines là-bas, elles font 300 MW et on en met 6 d'un seul coup. Hein.
Hein. Serre-Ponçon aujourd'hui, c'est marqué.
Ah bon. Moi, j'ai travaillé en stage à Serre-Ponçon. Et on travaillait que 2 postes par jour. 2 x 11. Ouf, si on disait ça maintenant, pas possible. Hein. Donc, Serre-Ponçon, c'est une énorme réserve d'eau. Hein. Une énorme réserve, et puis avec une puissance non négligeable non plus. Bon. En terre, oui. C'était, enfin, des cailloux. Il y avait une zone centrale qui était un étanche, en argile, un peu argileux, et puis il se construit en terre. Alors, il fallait amener des millions de tonnes de cailloux. Non, on allait chercher dans la Durance à côté, hein, le moins loin possible. Hein, parce qu'il fallait... On amenait ça avec des camions. Chaque camion, il portait 100 tonnes de terre. On la remplissait avec 3 coups de pelle. 30 tonnes à chaque coup. C'était des pelles qui étaient importées des États-Unis où elles servaient à l'exploitation du charbon, là-bas. À ciel ouvert. Et il y avait des draglines, il y avait des pelles en butte, il y avait tout. Électrique, avec un câble à 5000 volts qui suivait derrière. De temps en temps, il y en a un qui l'écrasait, ça faisait des
autres. Hein ?
C'était des... Non, c'était des chenilles classiques. Non, là, c'était des chenilles. Et puis les ben, il y avait 60 camions qui tournaient 22 heures par jour. Bon, on ne fait plus ça maintenant, hein. Terminé. Hein. Des trucs à long terme comme ça, c'est plus question. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est sur ces tomes-là. Ensuite, on va regarder ce qu'on en fait. Alors, ça donne, c'est une idée de consommation par tête d'habitant. C'est pas inutile de voir. Vous voyez que Nous, on est au milieu, là, à 4 TEP par habitant. Les USA, presque deux fois plus. L'OCDE, en moyenne, c'est à peu près ça. Le Moyen-Orient, c'est tant que ça, mais ils ont tellement d'énergie qu'ils la bouffent sans faire gaffe. Hein. L'Asie, c'est pas beaucoup, sauf la Chine, et puis le Japon. Le Japon consomme beaucoup d'énergie. Hein. Il n'a pas de ressources naturelles non plus, il consomme beaucoup d'énergie. Puis la moyenne mondiale est à 1,86. Donc, en gros, ça veut dire que nous, on consomme deux fois plus d'énergie que si on voulait fournir la même chose à 6 milliards d'habitants. Hein. Bon.
Ça veut dire qu'un pays évolué, c'est 4.
Aujourd'hui, l'OCDE, quoi, en gros, c'est 4. Ils sont au-dessus. À titre indicatif, j'ai une liste plus complète, mais je ne l'ai pas mis ici. La Russie, on n'est pas loin de 4 aussi. Hein. Mais il fait froid aussi là-bas. Hein. Mais donc la Russie est à peu près dans ces eaux-là. Hein.
La vodka,
c'est un complément. Alors, pour rappeler du CO2, c'est juste pour vous rappeler ici quoi, les différents produits qui font du CO2, là. Il y en a deux qui sont notables, hein. C'est le charbon et puis le gaz. Ben, le charbon fait deux fois plus de CO2 presque, enfin, que le gaz naturel, qui est le produit qui fait le minimum de CO2 pour le kilowattheure produit, quoi. Donc, aujourd'hui, utiliser du gaz, ça fait deux fois moins de CO2 que d'utiliser. Alors, c'est évident, hein, le charbon, c'est C. Puis l'autre, c'est CNHM. Eh bien, tant qu'on brûle de l'hydrogène, on ne fait pas de CO2. Hein. Donc, c'est assez évident. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, quand on brûle du charbon, on fait beaucoup de CO2. Alors, à titre indicatif, dans l'énergie électrique dans le monde aujourd'hui, 80% est produit par du charbon. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Allez voir en Chine, et puis même en Allemagne maintenant. Et en Russie, oh, encore que les Russes... Ah, attends, les Russes, ils ont du... Ils ont du gaz, ils ont du pétrole, ils ont des rivières avec beaucoup de barrages aussi. Ils sont bien, bien munis, les Russes. Hein. Bon, c'est juste pour se rappeler que dès qu'on parle charbon, alors que c'est le produit qui consomme le plus actuellement, parce que c'est, en plus, c'est le moins cher, hein. Donc on est très loin aujourd'hui de prendre la décision, quelque part dans le monde, de diminuer la consommation de charbon, hein. Il faut être clair là-dessus. Comment ? Ben, l'énergie nucléaire, il ne brûle pas de charbon. C'est pour ça qu'il n'est pas dedans. Hein ? Ah, si, les écolos vont vous dire qu'il y a un peu de charbon parce que... Non, il y a un peu de CO2 parce qu'il y a un diesel à côté qui tourne, ils le comptabilisent pour dire que ce n'est pas nul. Hein ? Bon, mais ça, c'est l'affaire des écolos. Bon, alors, le bilan énergétique mondial, c'est pareil, j'ai prélevé ce document-là, il est moins lisible, mais il faut le regarder longtemps, mais il est joli. Alors, maintenant que vous avez lu les autres, on peut même le décoter un peu plus vite. Vous voyez, tout ce qui est primaire là-bas, les 12,7 gigatets, parce qu'il a fait des machins, on termine en énergie finale, là, à 8,77. Donc, on perd, hein, entre le total, je vous expliquais un peu pourquoi, et puis, comment ?
C'est la transformation.
Alors, il y a deux choses, il y a les rendements de transformation, de nettoyage, de prendre de ce qui compte, il y a un certain pourcentage, et puis, il y a le problème de l'électricité. Alors, regardez la ligne du bas, là. 57 000 TWh, parce qu'on parle, alors, vous allez voir, on va parler soit en TEP, soit en terawatt-heure. Alors, terawatt-heure, vous savez ce que c'est ? 10 puissance 12.
Ah, 12, pardon.
Voilà. Il y a 12 zéros par rapport au watt. Hein. En watt-heure, un terawatt-heure, c'est 10 puissance 12 watt-heure. Hein. 10 puissance 9 kilowatt-heure. Bon. Donc, quand on parle d'énergie finale, on a tendance à revenir au terawatt-heure, et ce n'est pas une mauvaise idée, parce qu'on va parler de l'électricité, et l'électricité, c'est plutôt des terawatt-heure. Sauf qu'il y a un truc là-dedans, c'est qu'on considère que l'énergie primaire, par exemple, et ça, il faut bien se rappeler, pour faire 1 kilowatt-heure d'électricité, il faut 2,6 kilowatt-heure de chaleur. Parce qu'on a mis dans les statistiques Le rendement de Carnot a été égalisé en tout à peu près à ce chiffre-là. Rapport 2,58 dans les papiers. C'est-à-dire que, alors, quand on vous parle de, vous avez un mégawattheure électrique, ça compte pour 2,6 mégawattheure primaire. Y compris, vous allez voir que ça a des conséquences extrêmement pernicieuses. Et quand c'est de l'uranium, on dit c'est pareil. C'est comme si c'était du charbon. Sauf qu'il ne fait pas de CO2. Voilà. Et on va en reparler. Alors voilà pourquoi j'ai mis ce tableau-là pour, vous voyez, les 57 000 d'énergie de base, chaleur, deviennent 21 400 électricité, on dit primaire, parce que on a vu le fameux coefficient de 58, et puis après, on retrouve l'énergie finale, parce qu'entre-temps, il y a eu des pertes. Dans un réseau, dans les transfos, il y a pas mal de pertes, il y a facilement 5% de pertes. Hein? Voilà. Donc, c'est pour amorcer ce sujet que j'ai mis ce beau tableau, parce que c'est en couleur, ça fait joli. Alors, maintenant, on va redescendre sur la France. Hein? Alors, voilà. En France, voilà des choses auxquelles il faut essayer de se rappeler, quand même. En France, on a 260 mégatep par an d'énergie primaire. Alors là-dedans, il y a 65 mégatep de pétrole, 16 de pétrole raffiné parce qu'on n'en a pas assez, du brut, on est mal approvisionné. Ça vient ça du diesel. Parce qu'en France, on a des sources de pétrole, et dans les coupes de ça, on fait plus d'essence on a décidé de tout mettre en diesel. On va en causer d'ailleurs. On met tout en diesel, donc il faut acheter de l'essence, on achète des produits raffinés, c'est pour ça que c'est divisé en deux. 40 mégatep de gaz naturel, et puis 9 mégatep de charbon, parce qu'on utilise encore un peu de charbon. Hein, essentiellement dans l'industrie, dans la sidérurgie, des choses comme ça. Hein. Et puis, alors, les 14 mégawatts renouvelables thermiques, alors, mégatep, alors ça c'est... C'est un bordel, j'ai rien compris. Je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans exactement. Mais ça peut, c'est des combustions de déchets, hein, des combustions de trucs comme ça. C'est un package qui est pas d'une clarté absolue. Ça va avec les réseaux de chaleur. On trouve ça avec des réseaux de chaleur en particulier. Utilisation des résidus, voilà. Et puis, les 116 mégatep d'électrique. Comment?
C'est beaucoup.
C'est
beaucoup.
C'est pas mal. Enfin, 14 sur 260, hein, c'est pas quand même là. Hein? Et puis alors, il y a 116 mégatep d'électricité. Alors, ce sont les mégawattheures électriques convertis avec le coefficient 258 en mégatep, machin. Alors, ça veut dire que ces mégatep-là, il faut pas vous faire de soucis, mais... Ils n'ont, à aucun moment, ils ont produit une goutte de CO2. En plus, dans les 14 mégatep renouvelables, il y a aussi un peu d'hydraulique, qui est aussi compté là-dedans, l'hydraulique. Alors, vous savez, en France, l'électricité, en gros, un peu moins de 80% de nucléaire, 10% à peu près, un peu moins d'hydraulique, ça dépend des saisons. Et puis, le reste, c'est le complément qu'on ajoute quand on en a besoin. Et là, on fait comme on peut. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les achats extérieurs, c'est 70 milliards d'euros quand même. Hein. On achète, et ça, on n'a rien chez nous. Hein. On achète tout. Ça veut dire aussi que c'est l'équivalent, en gros, du déficit de la France annuel. Hein. C'est l'ordre de grandeur. Hein. Mais l'électricité, on achète 350 millions d'euros d'uranium, et c'est bien compté, là.
Le pétrole à 50.
Ça, c'était un peu plus quand c'est ces chiffres-là, un peu plus. Ouais, il était plus cher que ça un peu. Hein. Mais on vend aujourd'hui 45 TWh de surplus électrique au reste de l'Europe pour 2,5 milliards de dollars.
D'euros.
Oui, parce qu'on est... Ça veut dire en gros que l'énergie. L'achat d'uranium, c'est rien du tout, puisqu'en plus, l'énergie nucléaire nous rapporte des milliards d'euros en vente. Parce que. Pardon
Non, il y a un problème de c'est millions d'euros. Millions et de, c'est un petit M, millions d'euros.
Ouh. Ah oui, excuse-moi, oui, millions d'euros. Non, attends, excuse-moi, j'ai fait une erreur, c'est millions d'euros. Exact, c'est une erreur. Oui, non, mais...
C'est
comment?
C'est 0,35 en milliards.
En milliards, c'est 0,35. M, en fait, pour moi, M, c'est millions, MD, c'est milliards. Ben, c'est pour ça que c'est écrit comme ça, ok? Ok. Comment?
Ça coûte rien.
Et puis ça se stocke facile. On a des réserves pour combien d'années?
J'en sais rien, mais le... Bon, enfin, on en parlera de ça. Là.
D'accord. OK. Alors, tout ça pour dire que aujourd'hui, si vous prenez ça, en gros, on va dire que la moitié de notre énergie primaire est une énergie, comme on dit maintenant, non carbonée. On utilise... Ça veut dire que la France... Aujourd'hui, est le meilleur élève d'Europe en matière de carbone. Et on nous fait chier pour dire qu'il faut le réduire.
Ouais.
Tous les politiques en tête, et vous, je vous les cite pas, vous connaissez les noms.
On les connaît.
Bon. Alors, attendez, on va en reparler du diesel. On va en reparler. Alors, donc, voilà, ça, c'est des chiffres que vous pouvez mémoriser. Ils sont peut-être faux de 5 à 10%, parce que d'une année sur l'autre, c'est pas pareil, mais les ordres de grandeur, vous pouvez compter dessus, hein. Alors voilà, je répète, la moitié d'environ ne produit pas de CO2. Elle représente 2,5% de la consommation mondiale, notre énergie primaire, hein, d'après les chiffres. Et nous sommes que 1% de la population mondiale. Ça veut dire qu'on consomme 2,5 fois que la moyenne du monde, on l'avait vu. Le 1,8 qui passe à 4, hein, vous l'avez vu. Mais en CO2, on est revenu des petits chefs. On fabrique pas plus de CO2 que par rapport à la moyenne mondiale. Puis nos petits copains allemands à côté, qui sont des verts, très connus.
Eh
bien, eux, ils produisent 9 tonnes de CO2 par habitant, quand nous, on en produit la moitié. Mais c'est eux qui sont appelés verts. Mais ils ont viré au black, là. Hein, hein? Oui. Non. J'ai pas de correct là-dessus, parce que le CO2, chacun raconte la sienne. On dit qu'une partie du CO2 est récupérée par photosynthèse pour faire du bois. C'est à ce titre-là qu'on dit que c'est renouvelable. Mais d'autres disent, c'est pas si vrai que ça, d'autant plus que, pour l'instant, l'essentiel du CO2 a été récupéré par la mer. Et on sait pas aujourd'hui si ça va continuer. Et on connaît pas bien l'absorption, je crois, tout au moins, moi, j'ai rien trouvé de très sûr sur le sujet.
Il n'y a qu'une chose qui se passe, c'est que quand tu fais des maisons en bois, tu stoppes du CO2. Ouais. Ça, c'est sûr. Par contre, dès que tu utilises du bois, si, bien sûr.
Pourquoi ? Du bois ?
Tu relarmes le CO2. Dans la forêt, il est stocké aussi.
Oui,
bien sûr, mais pareil, sous forme de maison, mais par rapport à d'autres. Ah ben, si tu mets par rapport à la France, oui.
Bon. Alors, l'énergie finale dont on a dit, elle est directement, c'est ce qu'on utilise. Toutes les pertes de transformation sont déduites, et on parle plutôt de terawatt-heure, qu'il s'agisse de chaleur ou de travail. Hein. Alors, là-dedans, l'électricité. Alors, l'électricité, qu'est-ce que c'est? Ça peut être produit de trois façons différentes. Chimiquement, photovoltaïque, ou transformation du travail mécanique. Alors, quels sont les plus nombreux générateurs d'électricité? C'est les plus petits, c'est les piles. Bon, alors, à titre indicatif, la France consomme, utilise 450 TWh d'électricité, et la pile que vous avez dans votre montre, elle fait 225 milliwattheures, hein, c'est-à-dire 2 10 puissance 15, l'écart entre une pile et... Donc, il y a peut-être, en France, on a peut-être 200 millions de piles, mais ça compte pas. Mais c'est indispensable aussi. Donc, c'est très variable, hein, l'électricité, très variable. Pareil. Alors là, c'est juste, c'est un tableau qui représente aussi le flux des différents produits qui... Tu vois, alors, voilà, la production nucléaire, vous voyez là, On a 116 ou 100...
117,32.
Il y a 100... Là, attends.
117,32.
Ouais. Alors, et puis, là-dedans, on dit qu'à la fin... Attends. Ici, on n'a plus que 37 TEP. 37 TEP, ce qui est l'équivalent des 450, des 500 TWh qu'on fabrique. Ouais. Autrement dit, on passe de 117 à 37 en tenant compte du coefficient de 6 et puis des pertes. Donc, c'est, quand on met 110... Bon, tout là, je vous ai dit 116, hein, mais on, attention, ce tableau-là, il était fait un jour, et puis le lendemain, c'est pas le même. Mais en gros, de 116, on passe à 37. C'est le, donc, c'est une... Et puis le reste, la cheminée qui monte, là, bah, c'est les rendements, et puis c'est l'eau qu'on chauffe, c'est la vapeur, c'est toutes les pertes thermiques. Et que ça soit nucléaire ou fossile, ou n'importe quoi, hein, on passe tous par le rendement de Carnot, il n'y a rien à faire là-dessus, hein. Alors, là, maintenant, je reviens à ça parce que l'énergie finale en France, finalement, au total, c'est 1800 TWh. À peu près. Hein. Puis si vous me dites c'est 1850, on ne va pas se battre. Hein. On est là. On ne va pas chipoter. Je ne suis pas capable de chipoter. J'ai arrondi les chiffres en plus. Hein. Bon, alors, 1800 TWh. On voit que ces terawattheures proviennent dans la ligne du haut. Ils proviennent de charbon, de pétrole. Et puis, j'ai noté l'électricité au milieu pour le repérer. Hein, parce que l'électricité, ça paie 25% de l'énergie finale en France. Voilà. Alors, ensuite, vous voyez la division ici. Puis là, je me suis amusé à mettre ça en mégatep, puisque tout à l'heure on a dit qu'on est 150 mégatep final, mais ça n'a pas un intérêt important. Hein. Donc, on passe dessus pour l'instant, et on vient là, on va parler en pourcent. Alors, c'est quand même intéressant, là. Vous apercevez quoi? Que dans l'énergie finale qu'on consomme, nous, Français, 44% sont consommés par ce qu'on appelle le résidentiel et le tertiaire. Ça veut dire les maisons et tous les bâtiments de France, qui font du tertiaire, qui ne sont pas des usines. Donc, presque la moitié de notre énergie sert dans les bâtiments à les chauffer et à les alimenter en électricité pour leurs besoins. Bon, il y a l'électricité qui sert quand même un peu dans l'industrie, là. Ah, il n'y a pas que ça. La sidérurgie utilise un peu d'électricité. Elle utilise encore celle du charbon. Puis la deuxième chose qu'on remarque, c'est 90 que le pétrole, hein, le pétrole qui, là, ben, il représente 31%. Les transports représentent 31% de notre consommation énergétique et 82 qui consomme 92% du pétrole qu'on utilise. Donc, vous avez deux grandes consommations. Je vous prie simplement de vouloir garder un peu d'industrie. On est parti dans le contraire. Actuellement, on baisse les consommations industrielles, parce qu'on n'a plus d'industrie. Et là, ça baisse en permanence. Alors, si on continue comme ça, d'ailleurs, on va arriver à zéro. Il ne restera plus que les utilisations, on va dire, ludiques. Hein. Et vous voyez, alors l'agriculture, c'est un petit peu, mais enfin... Si on garde quand même 18% d'énergie pour l'industrie, quand même, avec un peu de chance, mais si on veut faire des économies quelque part, vous avez deux sujets importants, hein, le transport et les bâtiments.
L'agriculture, c'est que cultiver, c'est
pas... Alors, l'agriculture, c'est l'industrie agro, un peu l'industrie agro aussi. Hein. Ah, l'industrie agro, et puis les tracteurs, attendez, maintenant, ils sont tout le temps sur leurs tracteurs, hein, Ça consomme du fioul, hein, dans une industrie. Pas mal. Donc, ils consomment quand même du fioul. Bah, toi, 75% de leur c'est du pétrole. Mais c'est des petites quantités. C'est bon. Donc, allez, on évite de penser à ces choses-là qui sont petites, et on sait qu'il y en a deux sur lesquelles il faut agir. Alors, agir pour quoi faire? Agir pour quoi faire? La question. Alors, c'est là qu'on peut commencer à s'interroger sur la transition énergétique, nouvelle dont on nous cause. Alors moi, j'ai toujours pas retenu ce qu'on voulait avec la transition nouvelle, celle de Segault. En gros, j'ai cru comprendre que la transition, c'est-à-dire la nouvelle ligne de conduite, ça devait servir premièrement à limiter le CO2 dans l'atmosphère, limiter la consommation de CO2. Deuxièmement,
la production.
Ouais, d'accord. On veut aussi diminuer les déchets, la pollution. Donc, par exemple, pollution dans les villes, hein, les pollutions, disons,
Paris, Marseille
et tout, et puis les autres aussi. Hein, pour... On veut donc également. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on veut également modérer le prélèvement dans les ressources dites fossiles qui sont en voie de disparition. Alors, premièrement, si on dit ça, il y a une chose qu'il faut bien se rappeler, à mon avis. La seule chose qu'il ne faut pas toucher, c'est le pétrole utilisé par les transports. On n'est pas prêt de mettre autre chose que du pétrole dans une bagnole ou dans un avion. Donc il faut que, quitte à économiser du quelque chose, il faut surtout ne pas consommer du pétrole pour autre chose qu'une application de transport qui demande par définition d'une énergie transportable. Donc il faudrait dire, je ne veux plus consommer de pétrole dans le résidentiel et dans le tertiaire. Première chose intelligente à faire. Hein, c'est pas compliqué. Bon, le gaz. Alors le gaz, c'est pervers. Hein. Le gaz, aujourd'hui, c'est un truc terrible parce qu'il fait, à kilowattheure égale, il fait moins de CO2 que le pétrole. Seulement, le gaz, on maîtrise rien. Hein. Pas plus. Alors le pétrole, c'est Jean Covici qui disait, moi je pense que le pétrole, le prix ne sera jamais, on le maîtrise pas. Mais ça ne sera jamais quelque chose d'idiot, parce qu'il y a forcément un équilibre entre les gens qui en ont, qui veulent le vendre, et ceux qui vont essayer de l'économiser parce qu'ils en ont absolument besoin, et l'absolument besoin, c'est les transports. Donc, ce n'est pas très grave. On se mettra d'accord un jour pour utiliser au mieux les réserves de pétrole, et puis l'acheteur ne sera pas plus baisé que le vendeur. Voilà. Pour ce qui est du gaz, c'est beaucoup plus difficile. Le gaz, on coupe le robinet en 5 minutes, hein. Il est très soumis, finalement, aux aléas politiques. Et, que ce soit l'Ukraine, que ce soit n'importe quoi. Donc, c'est... Et aujourd'hui, on y reviendra, mais la RT 2012, la nouvelle réglementation, elle favorise à fond l'utilisation du gaz. Et c'est complètement débile.
Avec les
2,6. Donc, c'est... Pardon ? Non, écoute, aujourd'hui, tu payes le gaz bien moins cher que le pétrole, d'ailleurs. Hein,
oui, mais c'est lié au point de vue marché, mais c'est du bidouillage, ça.
C'est du bidouillage, c'est pas...
Mais la transition de Ségolène, c'est pour augmenter les taxes, c'est pas pour diminuer quoi que ce soit.
Oh, attends, là, tu changes de sujet, tu... Non. Bon, attends, on va continuer. Alors... Moi, je dis, bah oui, transition, c'est pourquoi faire. Réduire le prélèvement, on dit, c'est bien. Réduire les coûts et les pollutions. Détecter les actions efficaces. On vient d'en parler, hein. Les deux actions sur lesquelles on peut agir, c'est uniquement ça. Et puis, il faut quand même éviter de tuer l'industrie. Si on a 5 minutes, ça peut être un peu embêtant aussi, hein. Bon, alors, côté transport, on renote 90% à partir, 92% à partir du pétrole. Et c'est 70% du pétrole en France. Alors là, ensuite, l'essence est vendue 26% plus cher que le gazole. Moi, je compte en kilowattheure énergétique. Tout ça, c'est du bidouillage fiscal. Donc, c'est maîtrisé par tout, sauf par la... C'est pas scientifique, c'est purement politique. Le choix fiscal du diesel, discutable et dur. Alors, on a fait la connerie du siècle. Je pense, c'est d'avoir insisté sur le diesel d'une façon éhontée, à tel point que tout le parc automobile, 80% du parc automobile est diesel, et 80% des diesels roulent cul dans cul dans la banlieue parisienne pour les gens à y travailler avec. Alors, ces diesels-là fonctionnent très mal. On vient de les obliger à mettre des filtres. Avant, pendant 7 ans, on a réussi à empêcher que les filtres soient installés. Donc aujourd'hui, un diesel qui roule tout doucement sur la route, il remplit son filtre en point de temps, il bouche le filtre, il se met à consommer, puis à un moment, la lampe rouge s'allume et on lui dit au garage. Et le gars lui dit, bah oui, votre filtre est bouché, je vous en vendrai, hein, c'est pas grave, signez-moi un chèque de 1200 euros et tout est bon. Et on en est là aujourd'hui. Et malgré tout, on a quand même, à cause de ces voitures qui ont roulé dans Paris en particulier pendant 10 ans sans aucun filtre sur les HDI, eh bien on a des poussières de... Moi, je vois une fille qui habite là dans le 15e, on ne peut pas aller sur le balcon. Hein. C'est une épaisseur noire de poussière fine collante. Hein. Elles sont là, c'est sûr, hein, on les a vues. Bon, alors, c'est pour ça que je dis que le parc diesel sans filtre est très important. Alors, évidemment, là, Hidalgo, elle dit, allez, je vais les empêcher de rouler. Il y en a qui vont être contents hein, quand on va changer leur bagnole, qu'on leur a vendue il y a moins de 5 ans. Ouh, ils vont vraiment être contents. La norme Euro 5, il n'y a pas beaucoup de diesel qui la respectent. Hein. Je vais autant vous dire. Alors, situation de révolte rapidement, sans solution de rétablissement et plus tard. C'est évident, on ne va pas changer toutes les bagnoles d'un seul coup. Il faut du pognon, et puis, qui n'existe pas. Et puis, donc, la technologie, comme je dis, elle est polluée par la fiscalité. Alors, 2-3 chiffres pour voir, vous voyez. Diesel, machin, juste ça, c'est important. Les taxes dans l'essence, c'est la cata. Hein. Alors tiens, j'ai fait un tableau un peu plus précis là. Si vous voyez, c'est que, vous voyez, si vous regardez le gazole, que vous preniez le gazole, l'essence ou le fuel domestique, en gros, prix total hors taxe, c'est même ordre de grandeur. 0,68 euros par kilowattheure. Ça, c'est... Alors, qu'est-ce que vous voyez avec ça? C'est que le prix du kilowattheure hors taxe, il est de 0,07, d'accord. Et toute taxe confondue, ben vous voyez que le gazole est vendu à 0,13, l'essence à 0,17, et puis le domestique à 0,09. Pour votre bonne info, le gaz à côté, c'est 0,07. Voilà. Donc le gaz est même moins cher que le fuel domestique, c'est connu, hein. Et tout ça, c'est des bidouillages purement fiscaux. Hein. Alors, comment voulez-vous faire une politique alors qu'on change les règles du jeu tous les 6 mois? C'est difficile. Donc, c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, l'essence est vendue 1,26 par rapport à 1. Et l'essence serait un combustible beaucoup plus intelligent au point de vue écologie, parce que il ne ferait pas de... Il ne fait pas de particules, parce que ça brûle. Et puis ensuite, il ne fait pas de NOx non plus. Parce que les NOx sont liés à la température maximum de combustion du cycle. Alors dans un diesel, c'est exactement l'endroit qu'il faut pour faire des NOx. Là maintenant, c'est pour l'instant silence radio. Hein, personne n'en parle des NOx. Oula, c'est pour la prochaine révolution, ça. Hein. Pour l'instant, vous ne savez même pas que ça existe. Prochain ministre. Prochain ministre. Oh, il faudrait qu'ils comprennent, mais c'est plutôt... Alors... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire côté transport pour faire quelque chose? Ben, il faut améliorer le moteur à essence.
Ça a été fait déjà?
Non, pas sérieusement.
L'argument diesel, c'était la consommation et le prix fiscal qui avait
incité. Mais c'est... Donc, c'est pas de la science ni de l'écologie.
Non, bon. Les moteurs à
ben, bien sûr. Mais il faut quand même les améliorer parce que le moteur à essence a un énorme défaut. Il a quand même une perte de rendement assez importante du fait du principe. Donc, il y a des progrès à faire. À titre indicatif, les soupapes et puis le papillon, c'est des freins à la circulation des gaz qui coûtent très cher.
Ben, le rotatif, le stirling, je ne me souviens plus tellement ce que c'était, mais c'est mieux.
Stirling. Ah, c'est autre chose. C'est pas fait pour les bagnoles.
Tu récupères l'énergie.
Non, c'est un cycle spécial.
Ça ne peut pas faire l'électricité, je me souviens plus ce que c'est.
Si, ça peut faire l'électricité. Alors, attends, pas d'illusion sur... Alors, les Autolib, ça c'est très bien. Autolib, une bagnole électrique avec une batterie pas trop grosse qui se balade en ville tout doucement, moi je trouve que c'est pas mal. Qu'on développe des services urbains en électrique, je trouve pas ça idiot. Bon, ensuite, pas d'illusion sur la batterie électrique. Alors là, on raconte tout et n'importe quoi sur les batteries électriques. Hein. C'est affolant ce qu'on raconte comme conneries. Y compris des gens qui se disent très sérieux. Bon, une batterie électrique, bah regardez, hein, Tesla, c'est la bagnole la plus chère électrique qui a été inventée. Par un gars qui ne savait pas quoi faire de ses sous, c'est le propriétaire de PayPal. Dans la Silicon Valley, c'est pourquoi faire de ses sous. Il dit, il y a des gens plein de fêtes qui sont prêts à acheter n'importe quoi pourvu que ça soit cher. Et je vais leur faire une bagnole dans laquelle je mets toutes les meilleures choses qu'on puisse imaginer. Une structure en carbone, des trucs terribles, une batterie, 850 kg de batterie, qui équivalent à peu près à 30 litres d'essence. Et c'est des batteries au lithium qui sont d'une complexité...
7007, on a vu ça hier soir à la télé.
C'est pas quoi faire.
Ah ouais. Oui, ben attends. J'ai vu. Alors, ces batteries-là, il faut qu'elles soient refroidies en permanence. Elles chauffent. Je pense que vous avez déjà acheté une perceuse lithium-ion. Ben, il faut des chargeurs spéciaux pour les charger. Et là, c'est pareil. Et moi, j'ai déjà vu des photos. Maintenant, ils les ont un peu supprimées sur la 101 en Silicon Valley. Vous voyez. Une Tesla qui brûle.
Elle crame beaucoup
parce que la batterie brûle. D'ailleurs, c'est ce qui a failli arriver au Boeing 787 qui a été retardé d'un an parce que les batteries lithium qu'ils avaient voulu mettre, ils ont voulu mettre beaucoup d'électricité à bord de cet avion à la place d'hydraulique, mais ils ont compté sur les batteries lithium et la gestion des batteries lithium-ion de grande dimension, c'est la vraie cata. Voilà. Donc.
La batterie lithium marche très bien.
Oh, bah, elle est toute petite, ça va.
Ça court. Une batterie 12 volts.
Ouais, et puis tu vas pas, tu fais pas 25 km dans ta journée, à peine. 10. Bon, c'est bon.
La réussite de Tesla n'est pas du tout prouvée.
Non. Mais non, mais lui, il a. Mais c'est pas possible. Alors, leur bagnole. Alors, une batterie, jusqu'à preuve du contraire, quand elle a fait 1000 cycles de charge et décharge, elle est foutue. Alors, entre 500 et 1000. Et alors, on va reparler des batteries. Il y a des énormes progrès à faire. Il ne faut pas laisser la batterie de côté. Mais il y a des énormes progrès à faire. Pour l'instant, ils ne sont pas faits. Alors, c'est pour ça que j'ai mis pas d'illusion sur une transition accélérée là-dessus. Hein. Ça va durer un moment. Et puis, alors, surtout, il faut démystifier la voiture hybride. Alors là, les quantités de conneries qu'on raconte sur les batteries hybrides, c'est pire que tout. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais la première voiture hybride pas chère dont vous parle, c'est la bagnole qui fait start-stop. À chaque fois que vous arrêtez le moteur et vous le redémarrez.
Le diesel et l'essence font la même
chose. Attends. Tu vois, toi, un moteur diesel redémarrer 300 fois par jour ? Qu'est-ce que t'en penses ? Hein, Didier ?
Ça va bouffer la batterie.
Hein ? Comment ? Ça fait les cycles thermiques dont on n'a pas besoin. La mécanique, elle n'aime pas la thermique. Variable. C'est même valable pour les centrales nucléaires, d'ailleurs. Hein. Elles crèvent que de ça, hein, les centrales nucléaires. Des cyclages thermiques. Hein. Bon, eh bien, proposer ça... Alors, il y a des gars qui vont surtout avec des bagnoles en panne 10 fois plus vite que prévu. Hein. Et alors, c'est aberrant. Ben, alors, le pire, c'est qu'ensuite, on fait une voiture hybride avec la première voiture, ben, les Peugeot, avec des moteurs diesel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une voiture hybride avec un moteur diesel ? C'est qu'on va faire tourner le moteur diesel un peu moins longtemps chaque fois. Donc, il va se refroidir un peu plus. Normalement, il devrait crever vraiment très vite. Vouloir faire du diesel hybride...
Mais ce qui se passe, c'est qu'en automobile, la durée de vie, c'est 2000 heures. C'est déjà des durées très courtes.
Oui, mais même avec ça, ça va pas durer. Hein. Les démarreurs, c'est une chose, mais enfin, le cyclage thermique d'un diesel. Alors, ce coup-là, les filtres, ils ne marcheront plus. Le moteur sera froid en permanence. C'est complètement débile.
L'hybride, c'est fait pour aller à l'école, emmener les gamins.
Alors, l'hybride est une...
Attends. Pour rouler, parce que c'est 50.
Alors, la voiture hybride, pour moi, est une excellente solution. Le jour où on aura la batterie qui va bien. Alors, aujourd'hui, vous voulez acheter une voiture hybride pas trop idiote. Vous regardez votre portefeuille, vous allez chez Porsche et vous achetez une Panamera pour 100 000 euros. Voilà. Alors là-dedans, vous avez un moteur à essence, 400 chevaux. Vous avez un moteur électrique et une batterie assez costaud. Hein. La bagnole pèse 2 tonnes, bien sûr. Et vous regardez la notice, consommation de cette voiture... Si elle n'était pas hybride, elle consommerait 12 litres au 100. Et si elle est hybride, elle consomme 3 litres au 100. C'est écrit.
Et c'est ce qui fait... fait que le malus n'est pas de 1000 euros pour la panne à
vapeur hybride. Oui. Non, au contraire, on te donne 2000 euros si tu achètes pour 100 000 euros une Panamera. Attends, alors, quand tu. Mais. C'est, tu sais pourquoi ça? Parce qu'on a inventé un système de calcul de consommation de la voiture hybride. Alors, on part avec la voiture, on part avec la batterie électrique pleine. Ensuite, on dit, tu roules jusqu'à ce que la batterie soit vide. Mettons 30 km, si c'est possible. Et là, tu mets le moteur en route et tu as le droit de faire 25 km encore. Et quand tu as fait ça, tu prends l'essence que tu as consommée dans les 25 km et tu le divises par 55. Authentique. C'est écrit. Et on se fout de la gueule du monde. Il y a des gens qui croient ça.
Comme le calcul des chevaux fiscaux qui n'était pas...
Ouais. Non mais, on est, autrement dit, on a toute une politique de désinformation sur les problèmes qui est absolument sidérante. Absolument sidérante. Bon, on n'a pas le temps d'en parler parce qu'autrement, ça dure rien. Ça tourne. Bon alors, tiens, je vous fais quand même un exemple qui veut dire qu'il y a quand même un problème à résoudre. Je prends une bagnole. Bon, je prends la mienne par hasard. 2 tonnes, diesel, 240 chevaux, 7,5 litres au 100, à 90 de moyenne. Si je regarde en dessous, je regarde que pour faire ça, la voiture, elle a en moyenne, sa puissance utilisée a été de 24 chevaux. Et c'est imparable. Tu prends le nombre de litres d'essence, prends le rendement du moteur, je vous passe les calculs, c'est ça. Ça veut dire qu'une voiture aujourd'hui, on imagine que même une voiture qui roule bien, elle consomme en moyenne des puissances ridicules. Donc il y a sûrement un progrès à faire pour améliorer quelque chose. Et ce progrès, il passe par la voiture hybride. Parce que la voiture hybride, en particulier, une des choses... type la Panamera ou sa sœur, c'est qu'elle peut rouler dans Paris pendant toute la journée sur son moteur électrique. Elle ne fera aucune pollution. Tu passes en ville, la batterie est vide, boum, ça démarre, la batterie est chargée en 10 km. Donc, il y a quelque chose à faire, mais tout le problème est dans la batterie. Et il faut une batterie qui résiste à se charger, se décharger, parce qu'on la charge dans les descentes, on la décharge dans les montées, on la charge dans les coups de frein et on la décharge dans des accélérations brutales. Parce que la petite Panamera en question, elle fait quand même son 0 à 100 km/h en 5 secondes. Hein. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a un problème quand même. Il ne faut pas l'oublier. Ce problème existe. Alors c'est pour ça. Et quand je fais le même calcul en ville, ça veut dire que la bagnole, elle consomme 12 chevaux. Même en consommant 11 litres au 100. Si on fait ça, c'est ça. Donc il y a un problème à résoudre. On ne va pas le résoudre aujourd'hui. Donc maintenant, on va passer au résidentiel et tertiaire. Et là, ben, vous avez... Ils consomment un sixième du pétrole, 2/3 du gaz, 2/3 d'électricité consommée en France. Donc la moitié pour les usages spécifiques. Alors spécifique, c'est tout, quoi. C'est tout ce qui est électrique dans le tertiaire, dans la maison. C'est tout. Et puis il y a le chauffage. Alors le chauffage, 530... Térawattheure, j'ai compté hors bois et réseau urbain, il y a 530 térawattheures qui sont consommés pour le chauffage. Donc on se dit que si on diminue, si on augmente l'isolation des maisons, il y a quelque chose à gagner là-dessus de très sérieux. Et ça, c'est sûrement sûr. Alors, 30% de l'énergie finale totale pour la thermique des domestiques, etc. Donc c'est pour les chauffages des locaux, c'est pour l'ECS. L'ECS, c'est l'eau chaude. Et là-dedans, il y a 150 TWh qui sont de l'électrique. 1/3 de la consommation électrique française, c'est du chauffage. Eh bien, tu fais la gueule, mais c'est pourtant la bonne solution. Parce que c'est grâce à l'électrique qu'on peut oublier d'acheter du pétrole.
Parce qu'on a de l'uranium, parce qu'on a de l'atome.
Ah oui, et il y a des gens qui veulent supprimer l'atome, hein. Bon, alors, 1/3 des logements sont à chauffage électrique. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans les maisons, vous voyez, aujourd'hui, on mesure ça en kilowattheure par mètre carré par an. La moyenne, 270 actuellement, 80% sont entre 150 et 450. C'est tout le parc existant. Avant 1975, on ne s'emmerdait pas, le choc pétrolier n'était pas là. on mettait tout au grand air, on ne s'emmerdait pas, 300 de moyenne. Après 75, on a commencé à faire un peu attention. Et puis après 2000, on a réduit. Puis à un moment, on a inventé la RT 2005, qui est un règlement à peu près honnête. Hein. Il est honnête celui-là. Et on obtient 120. Voilà. Et bien une fois qu'on a dit ça, et qu'on regarde après, on a 33 millions de logements. Et on n'en fait pas 500 000 neufs par an. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais si vous voulez modifier le logement, il va falloir attendre un peu. Alors, surtout que des neufs, on n'en fait plus. Hein ? Ouais, c'est énorme. Alors ensuite, supposons que maintenant tu veuilles réduire ta facture de chauffage. Ben, j'ai fait un petit calcul que je vous l'expliquerai si on n'a pas le temps, mais on peut gagner 1200 euros par an. Mais il faut dépenser 30 000 euros de rénovation pour obtenir ce niveau. Eh bien, c'est pas. Il faut avoir 30 ans pour avoir l'idée d'un jour. Moi, je ne peux pas investir. J'en verrai pas la couleur. Bon. Donc, il n'y a pas de. Et en 30 ans, on pourrait peut-être obtenir les 120 kWh par mètre carré qui seraient très raisonnables. Mais il faut plus de 30 ans. Donc, une transition rapide à l'échelle d'une. Disons, d'un mandat présidentiel, c'est pas possible. Hein. Il faut oublier le mandat présidentiel ou autre chose. Hein. Ça se passe à un délai énorme. Alors ça, c'est des chiffres qu'il faut retenir. Aujourd'hui, on ne peut même plus faire 500 000 logements, on en a fait que 250 000, parce que grâce à la RT 2012, on a tellement rendu la chose compliquée qu'on a, l'année dernière, on en a construit que la moitié. Hein. Et ce n'est pas prêt de changer.
On a dégoûté les investisseurs.
Dégoûté complètement. Alors, bilan de cet état des lieux. Eh bien, on est le meilleur élève européen pour le carbone. Ça, c'est facile à prouver. Donc, on ne va pas nous reprocher quelque chose là-dessus. On a 50% d'indépendance énergétique. Notre consommation est à peu près correcte. On a un gisement d'économie en chauffage qui est possible. Et on a vraiment un problème avec les diesels en ville. Et Noix, ça va, qui va vous péter à la gueule lui aussi. Parce qu'on ne va pas changer le parc diesel en 5 minutes. Hein. Et ça, là, on a des emmerdes.
Le renouvellement du parc, c'est passé à 14 ans, je crois, un truc comme ça.
Ouais.
Avec 14 ans, c'est court par rapport à ce qu'on peut faire avec sur les bâtiments. Oui, je vois où il faut 50 ans pour faire quelque chose.
Ah, ouais, mais non, mais c'est plus court sur la voiture que. Et je pense que c'est à travers une version plutôt hybride que ça se fera.
Donc la voiture, on peut faire quelque chose.
Bon, alors, conclusion provisoire. Pas d'économie à court terme, mais rénovation thermique raisonnable, incontournable. C'est ce que je peux dire. Hein. Bon, il faut y penser. Il faut avoir une mentalité de constructeur de cathédrale. Hein, et se dire, ben, il faut y aller. C'est indispensable. Bon. Chauffage naturel, habitat individuel, le meilleur choix instantané, ben oui, c'est le gaz. Et la nouvelle loi RT 2012 favorise le gaz, je vous expliquerai. Et ça veut dire qu'on va aller vers le gaz, qui est un produit pas dangereux, mais sensible, approvisionnement sensible. Donc on n'a pas de sécurité d'appro là-dessus. C'est pas très mauvais au point de vue rendement énergétique. C'est même plutôt bon, ça se régule bien, mais c'est pas avec ça qu'on va gagner notre. Alors, l'énergie, l'électricité incontournable pour l'habitat collectif. Pourquoi ? C'est pas compliqué. On veut plus mettre de gaz à tous les étages. Hein. Tu vois plus d'immeubles avec marqué gaz à tous les étages. Parce que ceux qui ont ça, ils ont tous pété au moins une fois. Hein. Bah oui, les fuites de gaz, chaque fois, regarde même à Paris, où les lieux, ça pète, on en pète un de temps en temps. Donc, on ne veut plus mettre de gaz et on ne met plus de gaz dans des immeubles collectifs. On met à la place de l'électricité. L'électricité permet à chacun de doser son truc. Et on ne peut pas l'éviter, ça. Et si c'est bien régulé, les maisons bien isolées, eh ben, c'est pas si idiot que ça, le chauffage électrique. Bon, alors, bon, ça, il faut se rappeler de ça. Donc, c'est incontournable. Alors, à titre indicatif, vous voyez. De 70 à 2012, donc du choc pétrolier avant, on a multiplié la consommation d'électricité au total par 3,6, mais le résidentiel tertiaire multiplié par 7,4. C'est là qu'on a mis avec le chauffage électrique. Alors, le problème du chauffage électrique est quand même emmerdant. En 81, moi je me souviens quand on parlait déjà d'écologie, EDF disait à tout le monde, isolez votre maison et mettez du chauffage électrique. C'était un peu salaud, parce qu'on aurait pu tout aussi bien isoler les maisons et mettre autre chose que du chauffage électrique. Et en plus, on l'a dit, mettez voir des pompes à chaleur, qui étaient des pompes merdiques, et qui avaient un rendement dégueulasse, parce que les maisons étaient construites à l'économie, avec des chauffages à eau chaude, avec, il fallait 80 degrés dans les radiateurs pour les chauffer, donc le rendement de Carnot, de la pompe, le COP de la pompe, il y en a même, j'ai vu des installations où le COP était inférieur à 1, quand même. Hein. Donc ta pompe à chaleur coûtait plus cher qu'une résistance. J'ai au moins un exemple, hein. Mais à l'époque, les gens ne savaient pas ce que c'était, donc c'était pas grave.
Ça a changé, il y en a qui marchent
aussi. Hein? Ça a changé. Ouais. Bah oui, tu fais, si tu veux mettre de l'eau chaude, tu prends, avec eau chaude, tu prends un plancher chauffant à 30 degrés, hein, pour faire du rendement. Moi, j'ai un copain là-bas dans le sud-ouest, lui en plus, il a une source à 15 degrés sous sa maison. Alors, si tu n'as jamais vu un COP de 5, ça existe. Hein? Bon, l'alerte de MeToo, c'est la catastrophe, parce que. Elle décrit les logements à chauffage électrique comme énergivores, alors qu'ils sont assez bien isolés. Parce que j'ai vérifié, avec les consommations d'électricité telles que je les connais en France, eh bien, ça prouve que les maisons qui ont été construites électriques ont été assez bien isolées quand même, de l'ordre de 130.
Ah oui.
Ouais. Donc ces maisons, et maintenant, le gars qui veut la revendre, la maison, on lui dit c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Parce que dans la RT 2012, on vous dit, pour savoir combien consomme votre maison, vous multipliez 130 par 2,58, et vous allez voir que votre maison, c'est une catastrophe énergétique. Et la 2005 ne disait pas ça. Donc on fait tout pour rendre le problème difficile. Bon. Donc on oublie l'objectif carbone. Donc c'est clair, on oublie l'objectif carbone. La meilleure chose, c'est de mettre de l'électricité, et la nécessité de limiter l'importation de gaz. Quel but poursuivi ? Préparer une révolution verte. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Une solution, une fausse bonne idée, les politiques, mais irrationnelles, remplacer le nucléaire par l'éolien et le photovoltaïque, en négligeant les obligations de gestion du réseau électrique et les coûts induits. On va expliquer deux secondes. Bon, alors, la fausse bonne idée, le vent est puissant, inépuisable, il suffit d'aider l'avènement des éoliennes. Allez, on paye. Attends, c'est pas moi qui le dis. C'est moi qui l'écris, c'est tout. Il n'est pas nécessaire de couvrir tous les toits du pays pour disposer de photovoltaïque en quantité. Manque de peau, que ce soit pour l'un pour l'autre, quand ils sont disponibles, on n'en a pas besoin. C'est le contraire. Alors, on subventionne, on oblige, alors ça c'est plus important, je ne sais pas si vous êtes bien au courant, on oblige EDF à racheter à prix très élevé cette électricité au fil du vent et du soleil, sans référence aux besoins et à la nécessité de piloter le réseau. Donc, alors, EDF est d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il a le droit de prendre tous les suppléments d'argent, il divise ça par nous autres, là, et puis ça fait une taxe qui s'appelle la CSPE.
Ouh, elle tombe comment ?
Elle tombe dans ta facture. Comment ?
C'est pas 3 milliards ?
Oh, maintenant, c'est au moins 3 milliards, oui. Alors, cette taxe-là, les Allemands l'ont inventée. Alors, pour une fois, on suit les Allemands. Et le Pékin moyen allemand paie le kilowattheure aujourd'hui deux fois plus cher que nous. Et on est parti sur la même voie avec la fleur au fusil. Alors voilà des résultats. C'est américain. Voilà, comparaison des prix de l'électricité chez des gens en fonction de leur quantité de puissance éolienne chez eux. Alors, les champions du monde, c'est les Danois. Les Allemands sont juste derrière. Nous, on est encore un peu protégés pour l'instant. Voilà. Mais ça suit, c'est très régulier. Plus tu mets de l'éolienne, plus tu payes cher l'électricité parce que c'est toi qui récupères les coûts sur ta facture mutuelle. Voilà. C'est très sympathique. Si vous voulez, si on continue comme ça, vous saurez que vous payez deux fois plus cher l'électricité et les 10 millions de logements chauffés électriques vont voir leur facture augmenter en conséquence. Je pense qu'il faudrait mieux pas dire ça un jour de vote, hein, parce que ça sera un problème, hein. Bon, alors, aujourd'hui, l'éolien et le photovoltaïque ne sont pas pilotables. Il n'y a pas de solution de stockage efficace aujourd'hui. La seule vraie électricité verte, elle est hydraulique. Alors ça, c'est l'idéal. Si on n'y a que celle... Alors, quel est l'avantage de l'électricité hydraulique ? Elle est stockable, elle est électrique, quasiment. Elle démarre en 2 minutes. Il n'y a rien à chauffer. On démarre une centrale thermique, c'est... Même une turbine à gaz maintenant, c'est 10 heures. 10 heures de démarrage, hein, parce que. Quoi ? Attends, tu veux pas ? Un quart d'heure. Attends, tu la bousilles en un quart d'heure. Attends, t'as vu, je parle d'une 500 mégawatts. Moi, une 500 mégawatts générale électrique avec cycle combiné. Si tu démarres ça en un quart d'heure, tu me préviens, j'irai voir. Hein. Attends, c'est du choc thermique. Tu sais, dès que t'as un bout de ferraille plus épais que ça, hein, t'es de mon avis. Un bout de plus ferraille que je chauffe à bulle de raie d'un côté, il faut y aller doucement. Autrement, il pète. Hein ? Non, non, c'est... Un moteur d'avion, ça démarre en 5 minutes. Mais les tôles font 3 mm dedans. C'est pas pareil, hein. Bon, tout ça pour dire, à titre indicatif, un jour, nos amis allemands, en 2006, nous ont fait une grosse connerie. Ils ont coupé une ligne accidentellement sur l'Elbe. Et il y avait 10 000 mégawatts éoliens qui tournaient en Allemagne de l'Est. Et brutalement, ces kilowatts, la ligne étant coupée, l'éolien, lui, n'a qu'une idée. Hein. Il se protège, il coupe, sans demander l'avis à personne. On a perdu 10 000 mégawatts d'un coup sur un réseau qui en consommait 70 000 en Europe. Immédiatement, le courant est revenu. Ils ont rétabli la ligne très vite, en une demi-heure. Mais les éoliennes, elles redémarrent quand elles veulent et comme elles veulent. Et des fois, elles n'y arrivent pas. Donc, on s'est trouvé sur un réseau européen à qui il manquait 10 000 mégawatts sur 80 000. Donc, le réseau s'effondre dans ces cas-là. Les Allemands avaient 1 000 mégawatts de réserve tournante, pas plus. Il y avait de l'autre côté les Espagnols qui étaient dans le même cas, qui alimentaient même le Maroc. Alors là, les Espagnols ne sont pas fait chier, ils ont coupé le Marocain, ils n'allaient pas venir. Et puis eux, après, sont tombés aussi dans la merde. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On téléphone à la France en disant, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Alors honnêtement, la France n'avait pas envie d'un shutdown complet avec pilotage des centrales nucléaires. Hein ? Alors les Français ont dit, ben nous, on va se dévouer. On a coupé 2000 mégawatts dans le nord-est de la France, c'est venu jusqu'à Chagny, hein, les coupures, brutales. Et on a lâché les 5000 mégawatts de réserve hydraulique qu'on avait, qui ont sauvé la mise du réseau européen. Mais les Allemands étaient incapables de réagir devant la connerie qu'ils avaient faite. Alors ça peut recommencer à tout moment, une connerie comme ça. Hein. Plus on mettra d'éolien, le plus on aura ce problème-là qui sera capable d'arriver. Et nous, on n'aime pas trop sur le nucléaire, on n'aime pas trop ça, hein, honnêtement. Puis les autres non plus. Hein.
Ouais, mais ça vient quand même du câble, en la circonstance.
Non, oui, peut-être, mais ça peut arriver. On a fait couper une ligne pour laisser passer un bateau sur l'Elbe. Seulement, il y avait 3 lignes, et ils pensaient que les 2 lignes résistantes allaient suffire pour passer la puissance. Ouais. Manque de peau. Elles ont sauté. Il a fallu rétablir en 10 minutes le camp, mais les éoliennes étaient HS. Hein. Et ça ne repart pas comme ça. Et surtout qu'elles ne sont pas pilotées. Hein. Alors, voilà. Donc, il n'y a qu'une seule solution de stockage hydraulique. Et en France, on n'est pas mauvais. On a quand même 5000 MW de stockage hydraulique en France. Donc, vous connaissez tous le principe. Je mets de l'eau en haut, je la monte en bas, en haut.
Quand... Ça tient 24 heures.
Comment ?
Ça tient 24
heures. Ben, regarde, j'ai les chiffres, là. Tu vois, pour grande maison, qui est une des plus grandes, hein, des plus puissantes, tu as 30 gigawattheures stockables avec une puissance de 18 mégawatts. Donc tu peux quand même envoyer 15 heures de puissance de 1800 kilowatts, c'est-à-dire deux tranches de 900 que tu peux envoyer sur le réseau quasi instantanément. Hein. Si les boîtes à huile sont, les caisses à huile des turbines sont chaudes, tu démarres instantanément. Et c'est ça que, oui.
Explique le principe.
Ah ben le principe, tu remontes de l'eau. Tu remontes de l'eau dans le réservoir du dessus. Elle est stockée, c'est de l'énergie stockée. Il en faut beaucoup d'eau, voilà, c'est tout. Et cette énergie stockée, tu peux la déstocker quand tu veux. Et toi, ce que tu coules, le rendement, c'est le rendement de pompage et le rendement de turbinage. Le résultat, ça fait quand même 80% de rendement au global. C'est pas mal.
L'énergie pour remonter... Oui. L'eau coûte plus cher que l'énergie qu'on produit à reproduire l'électricité.
Ben oui, c'est le rendement.
Ben oui, un peu, oui. Mais t'as l'avantage d'avoir une sécurité.
C'est une sécurité.
T'as quand même.
C'est un accumulateur.
C'est un accumulateur d'énergie. Oui. Aujourd'hui, tu ne peux pas imaginer un réseau sans une accumulation d'énergie possible quelque part. D'accord. Puisque tu ne peux pas vivre. L'électricité, la production doit être égale à la consommation. Oui. Et comme ça ne peut pas être tout à fait parfait. tu utilises des réserves comme ça, comme toi tu userais une réserve d'eau dans ta maison, hein.
Oui, mais alors, tu pourrais remonter l'eau avec des éoliennes.
Ça coûte cher. Non,
mais... Bah dis donc, tu les mets où les éoliennes? Attends,
Avec des éoliennes, on peut faire de l'hydrogène aussi.
Ouais, le rendement de 40%, hein. Le rendement de 40% si tout va bien. Hein.
Il n'y a pas de vent.
Et puis, il faut avoir du vent. Il faut avoir du vent. Donc, toi, tu as intérêt à avoir ta réserve d'eau disponible pour parer à la première connerie qui arrive.
Oui, mais c'est marginal.
Quoi ?
Tu dis ça, c'est marginal.
Ah merde, 1800 mégawatts sur le réseau, c'est marginal ?
Tu t'en sers quand et quel moment ?
Au moment où tu en as besoin.
Ah oui, merci.
Ben oui, mais tu as 5000 mégawatts en France, tu peux lâcher 5000 mégawatts d'eau instantanément si tu en as besoin.
Ah ben d'accord, non, mais c'est bien, avec sécurité, c'est
pas grave. Ben oui, ben c'est fait pour ça.
Ouais.
Attends, on va continuer.
Ça fait partie d'une sécurité, pas d'un mix énergétique. Ça.
Ah ben non, mais aujourd'hui, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu ne peux pas avoir un réseau électrique sans égalité de la consommation et de la production. Et la production, tu ne la maîtrises pas comme ça. Et beaucoup moins même que comme ça. Donc, tu es à peu près obligé d'avoir un tampon, un poumon de sécurité. Alors, quand il y a 10 000 mégawatts qui sautent dans un coin, et que tu peux déjà en amener 5 000 d'un seul coup, tu changes la face du monde. Hein. Ouais. Parce que stopper un réseau électrique comme l'Europe, c'est un risque énorme. Hein. Tu te vois plus d'électricité nulle part, là. Même pas un ascenseur, donc plus rien, tout bloqué.
Ça joue beaucoup, ça augmente beaucoup les naissances.
Alors, tu vois, voilà la liste des steppes. Regarde, la liste des steppes français, tu vois. Donc, la plus grosse, c'est Grand Maison. Montézic dans l'Aveyron, sur la Truyère, là, il y a aussi un beau truc sur la Truyère, hein. Superbe sorte. Revin, c'est une des premières qu'on a fait, je crois. Et puis, le Chélal, d'accord, voilà. Donc, voilà. Alors, je vous rappelle les stockages chimiques, hein, pour avoir une petite idée, hein. Une pile, la pile bouton, là, que vous avez dans votre montre, 100 à 300 watt-heure par kilo. Hein ? 20h30, voilà. Bon, on va aller vite. Bon, c'est juste... Non, mais... Alors...
Continue tant qu'il y a l'électricité.
Alors, maintenant, pour vous montrer l'électricité en France, simplement, la puissance absorbée record qu'on a eue le 8 février 2012, hein, 102 gigawatts instantanés. En France, on ne les avait pas. Il a fallu importer 9 gigawatts qu'on a payé à 2000 euros le mégawattheure. Ah ouais, le gars qui les avait, il les vendait, ça se vend au marché, ça. On va la crier.
On a fait pareil avec les Allemands,
non ? Les Allemands, les Anglais, tout.
On leur a vendu cher aussi.
Ah bah, eux, bien sûr, on se frise pas non plus. Hein. Bon, la température, 1 degré de température, ça demande 2300 MW de puissance en plus.
C'est énorme.
Bon, il faut les trouver, ceux-là. Bon, alors, je passe. Voilà, regardez, ça c'est la courbe de consommation d'électricité en France, ça, le 6 février de cette année. On est monté à 90 mégawatts. On était en EJP, effacement EJP, gigawatts. 90 gigawatts. C'est-à-dire au maxi de nos productions internes. Le jour de 2012, là, on avait 90 mégawatts possibles en France, avec tout sur le pont. Hein. Voilà ce que ressemble une production d'électricité... un jour d'hiver.
Ça veut dire qu'on régule le
plat. On arrive à essayer. Mais alors, à condition qu'il n'y a pas une éolienne qui vienne te faire chier au milieu et semer la merde. Hein. Alors voilà, tiens, ça c'est la prévision de charge pour demain, qui est un jour rouge aussi demain. Voilà, la prévision de charge, vous voyez, on va encore monter à 86 gigawatts demain. Hein. Et vous avez vu quand même. Alors, quand est-ce qu'il faut... Le photovoltaïque sera pas très utile, là, hein, parce que à la pointe, à 8 heures, il n'y a pas de soleil, et le soir d'hiver, à 19 heures, il n'y a pas vraiment de soleil non plus. Hein. Donc, vous voyez à peu près les conneries auxquelles qu'on raconte. Mettez dans votre photovoltaïque. Bon, alors, regarde ça. Un exemple. Les variations du vent... Voilà, la variation de la puissance avec les écarts qui ont été faits on a pu avoir, il y a une variation de 11 000 mégawatts en moins de 4 heures. Ben, il faut les trouver, les mégawatts. Il faut les allumer, les centrales à turbine à gaz. Et juste à temps. En 4 heures, elle a à peine le temps de chauffer. Hein. Regardez là, ça c'est l'année de... C'est dans le mois de septembre-mars, en 2011. Hein. Voilà les variations de puissance éolienne qu'on obtient.
En France ?
En France, c'est en France. Ça. Et on a peu d'éolien, c'est juste pour rigoler ça. Hein. Juste pour rigoler. Mais si on ne veut plus rigoler, qu'on en met trois fois plus, alors je ne sais pas comment on fait. Mais ça ne gêne pas les gens qui proposent. Hein. Regardez, voilà un exemple là, où il a fallu en 10 heures changer de 40% la puissance nominale des éoliennes. C'est étonnant, on a fait des variations énormes. Hein. Regardez là, c'était en novembre 2010, c'est la puissance appelée en France, et puis la puissance éolienne, là. Alors vous remarquez que quand on a besoin de courant, le vent est coupé. Hein. Bon, vous démerdez avec. Alors là, c'est plus grave ça. Ça, c'est toute l'énergie éolienne européenne concentrée en même temps. Eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas d'effet de Moyen-Âge entre un bout et l'autre de l'Europe. Les pointes sont les mêmes, aussi grosses. Donc, moi qui comptais dans le temps, quand je m'occupais d'éolien, que je pensais que l'effet de foisonnement existait, ben, la preuve est faite aujourd'hui, parce que ça, c'était duré pendant des années, qu'on ne peut pas moyenner l'industrie éolienne. C'est à peu près immoyennable. Donc, il faut vivre avec. Donc, il faut vivre avec des ressources.
Alors, hein? Quand il n'y a pas de vent, il n'y en a nulle part.
Voilà. Il n'y en a nulle part. Voilà. Et ça, on ne le savait pas. Bon, alors, si vous voulez, si vous êtes un monsieur qui voulait être écolo plein pot, je veux vivre avec l'énergie écolo dans ma maison, chez moi. Alors, je me mets une éolienne de 10 mètres de diamètre. Moi, j'ai besoin de 25 000 kWh par an. Et il faut que je fasse de la réserve pour pouvoir vivre. Alors, Manuel Lyon va fournir toutes les kilowatts dont j'ai besoin, sauf qu'elle ne les fournira pas quand j'en aurai besoin. Donc il faut que je mette une réserve. Alors, j'ai décidé qu'il fallait au moins 4500 kWh de réserve. Alors, c'est pas compliqué. Je fais un stockage hydraulique, ma petite step à moi. 40 000 mètres cubes d'eau à 50 mètres de haut, et ça marche. 40 000 mètres cubes d'eau à 50 mètres de haut. J'ai bien dit. Donc si t'as il te faut 4 hectares chez, au-dessus, avec une hauteur d'eau d'un mètre, une rivière en bas...
C'est pas grand-chose.
Oui, la rivière fait l'affaire. Oui, mais il faut un lac en haut, au moins. Oui, mais ça peut être la rivière en bas. Oh, bon, si, tu peux lui prendre 40 000 mètres cubes, c'est rien. Eh ben voilà le travail. Alors, vous ces chiffres-là, vous pouvez les vérifier, vous remettez au calcul, hein. Alors, vous voyez qu'on n'y est pas, hein. Bon. Alors, coût réel de l'intermittence écologique, mais il faut ajouter des dispositifs de stockage, je n'ai pas dit lesquels, j'en sais rien. Ne pas accepter l'obligation d'absorber au fil du vent, parce que ça fout tout en l'air. D'ailleurs, les Tchèques ne veulent plus entendre parler des Allemands, qu'ils ont trop d'électricité et de machin, ils balancent en Tchéquie. Alors maintenant, ils ont décidé de fermer le robinet, parce que ça fout en l'air le réseau tchèque. Alors, concentrer la recherche sur une nouvelle idée de stockage, c'est la seule chose intéressante à faire. Et aujourd'hui, des chiffres qui proviennent d'EDF, hein, un de nos conscrits d'EDF, là, il m'a dit, voilà, à 190 euros du mégawattheure, on pourrait faire de l'éolien terrestre pilotable, je ne sais pas comment. Et mais 350 mégawatts euros par mégawattheure pour l'éolien offshore. Alors je vous signale qu'actuellement, l'éolien, enfin le courant, c'est 50 euros. Hein, donc le rapport c'est 7. Hein. Vous avez le quoi de préparer vos porte-monnaies. Hein. Et puis je vais dire que... Et je résume, hein, le stockage de l'électricité est l'obstacle numéro 1 élevé, il n'y en a pas d'autre. Et après, c'est le prix. Mais le prix, on peut le choisir. Mais de la technique, on ne peut pas la choisir. Il la faut. Stockage de masse ou réparti, on peut en mettre chacun sa batterie. Hein. Le supercondensateur, sûrement la meilleure piste à suivre. On n'a pas le temps de vous parler du supercondensateur. Il y a des idées extraordinaires là-dedans qui peuvent exister. Hein. Ça ne sera pas gratuit ni rapide. Heureusement, qui peut accepter une augmentation inconsidérée et rapide du kilowattheure. Je termine là-dessus. Vous choisirez l'augmentation que vous préférez.
Merci. Merci.